Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues et 172 d'Orange. On est ravis de vous retrouver pour évidemment prolonger le plaisir de ce 88e Masters qui s'est achevé dimanche avec la victoire de Scotty Scheffler, nos top, nos flops. Évidemment, Scotty Scheffler, Mathieu Pavon, vous allez tout savoir, c'est le débrief. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Arnaud.
Salut JP.
Alors on s'est encore une fois régalé, forcément, semaine de Masters, on vibre toute la semaine à voir ce parcours, ces joueurs, cette difficulté. Cette année, c'était d'ailleurs particulièrement dur avec seulement 8 joueurs sous le par. On l'a vu, des conditions dantesques. On se souvient de cette image du green du 18, totalement maculé de sable vendredi. Bref, il y a eu tous les ingrédients pour sortir à la fin. Scotty Scheffler, évidemment, annoncé favori. Costume de favori, il l'a montré sur le terrain.
Ouais, sans surprise, hein, on s'attendait à la victoire de Scheffler. Tout le monde s'y attendait d'ailleurs depuis le début du tournoi. Et malheureusement, hier, le suspense n'a duré que 9 trous. Au moment où Scheffler a accéléré, tous les autres se sont
plantés. Cassé les dents sur le parcours aussi.
Voilà, ouais. Mais on a quand même eu un très très beau Masters, encore une fois, pendant 63 trous. Il y a eu du suspense. C'est sûr qu'on aime bien que ça se joue dans les neuf derniers trous le dimanche. Là, il y a eu un ou deux trous du retour où on y a cru jusqu'à Berck dans l'eau au 11. Donc, c'est un peu décevant. Mais encore une fois, le samedi avait été tellement fabuleux. Moi, je trouve ces 9 derniers trous du samedi, je le redis, ont été dingues. Donc, c'est quand même un très, très beau master. C'est un vainqueur immense, comme Hugo Ponce à la réalisation. Et avec un très, très beau deuxième aussi, Ludwig Haberg. Je pense qu'on est parti pour une belle rivalité entre ces deux-là. Un Français dans le coup, qui nous a fait vibrer jusqu'à dimanche. Meilleur résultat jamais vu par d'un Français là-bas.
Parce que finalement, on l'attendait. Enfin, avec tous ces bons résultats depuis le début de saison sur PGA Tour, attendait à voir Mathieu Pavon dans un majeur au Masters, tournoi qui le fait rêver. Et il a répondu présent, quoi.
Victor Dubuisson nous avait enchanté. Il avait été 15e mondial, mais jamais un joueur français. Céline Boutier nous l'a fait chez les filles l'année dernière, mais jamais un joueur français n'avait répondu autant aux attentes de tout un pays, enfin en tout cas tout un pays, de tous les golfeurs. Parce que
tout un peuple même, Arnaud.
Tous les autres s'en moquent, mais c'est pas grave. Tant pis pour eux, mais en tout cas tous les golfeurs avaient envie d'avoir un joueur français. Ben voilà, Mathieu Pavon, il est sur le PGA Tour depuis le début de l'année. Et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et là, il arrive au Masters, ben voilà, il était dans le coup. Il aurait même pu jouer la gagne hier, donc bravo, chapeau, et comme je dis toujours,
vivement la suite, il va jouer cette semaine le RCB Heritage, et puis on va le voir aussi à l'USPGA au mois de mai.
On va le voir partout, on verra l'année prochaine au Master, enfin vivement la suite.
Et juste avant de retourner à Augusta et retrouver Benjamin Cadieux, je vous propose de l'écouter, Mathieu Pavon, à l'issue de son dernier tour.
Oui, c'est une super performance, c'est mon premier Master, donc un top 15 visiblement, vous me l'apprenez, c'est une bonne place. Voilà, j'aurais aimé quand même faire sous le par aujourd'hui, je pense que j'avais le jeu pour. Maintenant, c'est pas passé loin, mais ça reste une très très bonne semaine. Je pense que hier le setup était très très limite, aujourd'hui j'ai senti que les greens étaient un peu plus soft, surtout sur l'allée. Je pense que les 6 derniers trous là, les 4 derniers trous là, ça s'est bien bien raffermi. Donc voilà, c'était challenging, mais juste aujourd'hui. Et on a pu voir qu'il y avait des joueurs qui ont commencé assez fort. Et je pense qu'il peut y avoir quelques surprises sur les derniers trous. Tu te rends vraiment compte, en jouant le parcours, la difficulté en fait de ces greens. Voilà. C'est très très piégeux. On a du mal à voir certains breaks. Ils vont très 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 vite. Il y a vraiment des endroits où il faut vraiment pas être, quoi, où des chips sont plus intéressants. À jouer que des putts, l'exemple du 18, court à droite, pas un bon coup, mais j'ai le chip en montée. Si j'avais été long sur le plateau du haut, ça aurait été un putt très 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 compliqué. Donc voilà, la difficulté des greens et des alentours, cette exigence qu'il faut avoir au petit jeu ici, c'est vraiment impressionnant, et j'ai jamais joué quelque chose comme ça pour l'instant.
Est-ce que ça prend
beaucoup d'énergie ? Ouais, énormément, ouais. Ouais, ça frustre en fait. Je pense que j'ai plutôt eu une bonne attitude ces 6-7 derniers mois. Je suis quelqu'un où j'essaye de beaucoup me tempérer, où j'essaye de rien laisser transparaître. Et on peut voir pas mal d'agacement aujourd'hui, je jure, entre guillemets, plus que d'habitude. Mais c'est juste ce parcours en fait qui nous laisse aucun répit, qui même en tapant des très bons coups, comme j'ai pu taper au 13 le par 5 et au 15, j'ai tapé deux fois deux coups parfaits, je me retrouve deux fois derrière le green de pas grand chose, et je me retrouve deux fois avec des situations qui sont très difficiles à gérer et où je sors in extremis avec deux parts. Donc voilà, c'est vraiment un parcours où il faut gérer sa frustration et c'est ça peut-être qu'il faudra encore plus travailler la prochaine fois pour revenir espérer faire mieux.
Last question. La suite c'est Hilton Head,
puis Ouais. Rien ne change, Hilton Head. Que je suis très impatient de jouer parce qu'on m'a dit à quel point ce parcours était merveilleux. Donc, et le Japon, au pied du mont Fuji. Il me semble qu'il y a peut-être eu la Coupe du Monde à une époque là-bas sur ce parcours. Mon cadet m'a dit que c'est assez spectaculaire. Donc voilà, deux belles semaines à venir. Je suis très heureux de pouvoir les jouer.
Voilà, Mathieu Pavon, qu'on a hâte évidemment de retrouver prochainement, déjà dès cette semaine sur le PGA Tour et puis en tournoi majeur à l'USPGA. Allez, je vous propose, sans plus attendre, de retrouver Benjamin Cadieux, toujours à Augusta, qui a suivi ce 88e Masters pour l'équipe et Journal du Golf. Bonjour Benjamin.
Salut tout le monde.
Alors Ben...
Venez voir, j'ai un invité spécial.
Un invité mystère.
Ben voilà, oui, on vous a pas beaucoup entendu.
Ça va les gars?
Ouais, on vous a pas beaucoup entendu, Romain Lefebvre.
Il y a un autre membre du podcast.
Oh là là,
mais
ils s'en patientent pas du tout, en fait. Ils sont très bien.
Non, ils sont très contents.
La Golden Hour, magnifique lumière, superbe.
Ouais, ça c'est assez classique, se faire ruiner son plateau quand il y a des supporters autour.
Il a dit quoi, la Golden quoi? On n'a pas compris. Ah bah oui, j'ai compris, mais l'accent était plus...
Shower,
ouais.
Il me semble.
Ouais. Bon Benjamin, je suppose que la nuit a été courte, les petits yeux, à passer à écrire des papiers pour l'équipe, pour Journal du Golf.
Pour l'équipe.fr.
Pour l'équipe.fr.
Et Golf Magazine.
un master, un 88e Masters qui s'est fini, on va pas dire sans surprise, sur la victoire de Scottie Scheffler, mais je suppose que vu de l'intérieur, ça devait être encore plus impressionnant que de chez nous devant notre télévision.
C'est fin de Masters à la Golden Hour avec cette petite lumière dorée. Là, c'est un classique et la météo a été sympa avec nous. On a vraiment retrouvé le soleil, un peu de quiétude. Et ensuite, on ne va pas refaire les scores. Vous avez bien vu ce qu'a produit et l'accélération qu'a produit Scottie Scheffler. J'allais le comparer encore à un cycliste qui grimpait, un cycliste connu américain de la précédente décennie.
Interdit.
Qui accélérait et qui faisait. Et qui faisait exploser tout le monde, mais
de façon illégale.
C'est passé
de façon illégale.
Voilà, c'était un peu plus légal avec Scottie Scheffler. En tout cas, ça a tapé très fort. Hein. C'est birdie 8, 9, 10. Je crois qu'il plante encore le mât. Il plante encore le mât au 14. Joli birdie au 16. Et pendant ce temps-là, pile en même temps, l'adversité à Berg, Morikawa, Oma, qui font double bogey vraiment dans le même temps. Donc Il est vraiment trop fort, Scottie Scheffler.
Et en tout cas, félicitations, Benjamin, parce qu'on vous avait demandé le score du vainqueur. Bien vu.
Ah bah, merci de le préciser.
Ouais, et puis,
pour une fois que je ne me trompe pas.
Ce qu'il faut noter, Arnaud, c'est aussi l'adversité. On a l'impression qu'ils se sont tous cassés les dents sur ce parcours d'Augusta, sauf Scottie Scheffler. C'est ça.
Ouais, sauf Ludwig Aberg aussi, qui était rookie. On sait qu'il n'y a que Fusil Zoller en 79, sinon dans les temps immémoriaux qui s'imposait en tant que rookie. Donc non, Ludwig Aberg, je pense que, Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le rival que des prochaines années pour Scottie Scheffler.
Il est hyperbe, enfin c'est bluffant ce qu'il fait, c'est comme tu l'as dit, donc c'était son premier master, son premier majeur, et maintenant on en est sûr, enfin je pense qu'on peut l'affirmer, c'est un crack du quota mondial, donc il était déjà dans le top 10 mondial, d'accord, mais non pas que c'est pas bien de gagner à cran sur Sierre ou à d'autres endroits. On n'arrive pas top 10 mondial par hasard, mais c'est vrai que comme son classement mondial était tout jeune, je pense que le diviseur elle lui était hyper favorable. Là il a performé aussi en Ryder Cup en septembre, il a montré qu'il pouvait cartonner sous pression maximale. Là c'est encore au-dessus parce qu'on est en stroke play, etc. Vous ne pouvez pas vous cacher dans cette formule de jeu, en particulier sur une semaine où le parcours a été hyper difficile, au moins les trois premiers tours, parce que même le niveau de scoring n'a pas non plus été dingue ce dimanche, hein, les sols étaient quand même assez secs.
Ouais, seul donc 8 vraiment, seuls 8 joueurs sur le terrain.
Voilà, ultra bluffant à Berg. C'est cette attitude qui est incroyable.
La décontraction. Ouais.
Il met sa balle dans le bassin. Ouais, il met sa balle dans le bassin haut, ça le fait marrer. Il en a souri. Toute la salle de presse était presque morte de rire. Quoi. Ça contrastait avec l'attitude de Scheffler qui marche volontairement le nez dans ses chaussures pour rester dans sa bulle. Bah, lui, à Berg, il reste dans sa bulle en étant heureux. Il n'est pas hilar, mais en étant relativement souriant, c'est hyper agréable à suivre un joueur comme ça. Et je pense que l'Europe a trouvé un nouveau leader, et tant mieux, parce qu'avec les défections sur le livre, on va sûrement en avoir besoin pour la prochaine Ryder Cup.
Ouais, ça me fait penser un peu à Victor Hovland aussi, quand on l'a vu au tout début. Victor Hovland, il avait ce côté souriant, frais, et c'est vrai qu'à Berg, c'est un peu un ton au-dessus finalement.
Ah bah, c'est deux ou trois tons au-dessus même. Benjamin, je sais pas.
On va voir. Je sais pas
ce que t'en penses, mais on a l'impression que Scotty Scheffler, il est au-dessus de tout le monde maintenant. Et le seul qui va pouvoir venir le menacer dans sa sphère, c'est Ludwig Aberg. Hein. Moi, j'adore Rory McIlroy, mais on va pas dire que son prime est passé, mais si, probablement en tout cas. Peut-être qu'il en gagnera d'autres, peut-être qu'il gagnera le Masters, mais on ne le voit pas aller menacer Scotty Scheffler sur la durée. Le seul qui va pouvoir empêcher Scotty Scheffler de battre tous les records, c'est Ludwig Aberg. En tout cas, pour l'instant, on sent vraiment... poindre cette rivalité qui pourrait animer le golf mondial
et surtout, c'est
durant les 5 ou 10 prochaines années.
C'était son premier majeur à Ludwig Aberg.
Ouais, alors c'est pour ça aussi qu'il faut quand même rester mesuré. On verra déjà à la fin de la saison quand il en aura joué 4 des majeurs à Berg et le golf, ça va très vite. Hein. Regardez le travail entrepris par Scotty Scheffler avec Phil Kenyon au putting daté de septembre. Jusqu'à février, ça ne marchait pas du tout. Et on se disait, bon, est-ce que le prime de Scotty Scheffler a déjà fini à 27 ans? Puisque, comme on l'avait dit dans ce podcast, il y a beaucoup de joueurs qui disparaissent par le putting. Et quand on est 196e au stroke gain putting, comme l'était Scotty Scheffler, avant de changer de putter début mars, avant de passer au Spider et de laisser la lame Scotty Cameron, on se disait... c'est pas qu'on disait qu'on ne le verrait plus puisqu'il faisait quand même top 5 en potant très mal sur la plupart des tournois et il jouait même en permanence sous le par ou au niveau du par. C'est quand même aussi particulièrement dingue. 31, on le rappelle, hein, 31 cartes cette année Scotty Scheffler, toutes dans le par ou en dessous. Donc on va quand même attendre un peu. Ça peut. Rory McIlroy, il bosse avec Butch Harmon depuis quelques semaines. Il rebosse avec Butch Harmon depuis quelques semaines. Le travail avec un coach, c'est pas toujours un déclic immédiat comme un changement de coach au foot, on va dire. Donc on va laisser un peu de temps à McIlroy. Il a 34 ans, donc il fait 22e. Il est quand même pas complètement acheté à la poubelle.
Non, il est pas acheté à la poubelle. Mais il peut encore gagner en majeur, c'est sûr. De redevenir numéro un mondial, j'ai beaucoup plus de mal à... Quand on voit le niveau de jeu de Scotty Scheffler depuis 2 ans, quand on voit les résultats de Scotty Scheffler, il va falloir... c'est ce que disait Nosferatu, je crois, qui disait que pour que... Il y a 2 mois, Rory McIlroy pouvait redevenir numéro un mondial à la place de Scotty Scheffler. Il fallait quasiment qu'il gagne les 3 prochains tournois majeurs et que pendant ce temps-là, Scotty Scheffler aille à la pêche, quoi. Donc... c'est vraiment pour aller chercher Scotty Scheffler, en tout cas en 2024, il va falloir, et le temps ne joue pas en faveur de Rory McIlroy. Je ne dis pas qu'il est fini, évidemment que tous les autres peuvent battre Scotty Scheffler, même le grand Tiger Woods à sa grande époque, il ne gagnait pas tout. Mais aller chercher la place de numéro 1 mondial, à part Ludwig Aberg, là, moi je ne vois pas, et je crois beaucoup en Ludwig, parce que quand on voit comment il swing, c'est un robot, mais dans le bon sens du terme, il swing, c'est Ernie Els, en beaucoup plus fin, Et la balle, elle part toujours à des kilomètres, toujours tout droit, toujours, toujours, toujours. C'est impressionnant.
Ouais, il est capable de mettre des coups de fer au plafond. On l'a suivi avec, quand il a joué avec Mathieu Pavon notamment, il est capable d'envoyer des longues cannes très haut. Et ça, en tournoi majeur, ça peut vraiment servir sur des greens particulièrement sélectifs, comme c'était le cas cette semaine. Maintenant, voilà, il y a toujours des pics de carrière. Et c'est vrai que quand on sort d'un tournoi ou d'un mois, où Scotty Scheffler a tout gagné ou a fini top 5, ben on se dit, on a envie de penser que c'est fini, le jeu est terminé et Scotty Scheffler a plié le game. Mais bon, on connaît tous le golf ici.
C'est plus
il
que d'un
peu
mois.
De choses des fois. Pour, mais
ça fait plus, c'est plus que d'un mois, Benjamin. Ça fait deux ans que ça dure, hein, Scotty. Hein.
Arnaud, Benjamin, ça veut dire qu'on est peut-être Scotty Scheffler est peut-être parti, en tout cas bien parti, pour faire un grand chelem cette année, ou c'est trop.
Bah, en tout cas, on peut l'imaginer, Benjamin.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr que s'il continue de ne rater aucun drivé à 270, 275, 280 mètres, avec plusieurs options depuis le titre départ, parce qu'il peut, il peut également ranger le driver et utiliser, utiliser ses longs cannes depuis le départ, c'est, ça lui laisse énormément de, d'options et de plan B, voire de plan C. C'est pas un simple bombardier, il bombarde même pas du tout, quoi. C'est tout, faire top 10 au fairway touché tout en étant dans le top 15 en longueur et avec, à mon avis, 10 bons mètres de réserve depuis le titre départ, c'est bluffant. Et tant qu'il continue à putter correctement, et puis toujours à réussir ses coups un peu clutch. Alors, si on se rappelle, samedi, ça commence à partir un petit peu en vrille, mais bon, déjà, il rentre son chip au 1, il met un coup, il met une claque derrière la nuque de tout le monde. Derrière, il fait bogey double et il arrive à activer cette bounce back ability dont on a parlé hier. C'est il a ce côté où rien ne peut lui arriver, en fait. C'est ça le truc. Maintenant, voilà, il est dans son pic, il est aussi dans sa saison qu'il aime bien. Alors c'est que on peut juger que sur deux saisons pour l'instant avec Scotty Scheffler, il est au top depuis 2022, mais 2022 il avait gagné ses 4 ou 5 victoires en février, mars, avril. Là, il est en train de tout gagner en mars, avril. On va voir s'il arrive à prolonger ses pics de forme bien au-delà de ça pour pouvoir, comme tu disais, JP, postuler au Grand Chelem ou au moins déjà en gagner deux dans la même saison comme l'a déjà fait, tiens, Rory McIlroy en 2014.
Il y a du Tiger Woods de la grande époque dans Scotty Scheffler, justement, quand on voit
bah, au classement mondial, oui. Son avance au classement mondial est digne de Tiger des grandes années. Là, j'ai pas le chiffre sous les yeux, vous regarderez, mais c'est digne de Tiger quand il était dominant. Donc oui, là, de toute façon, là, tous les voyants sont au vert. Il va être papa. Après, il va falloir voir comment il gère ça aussi. Il va devoir penser pour trois et non plus juste pour deux avec sa femme Meredith. On va voir comment ça se goupille pour lui. Mais bon, visiblement, c'est généralement, ça donne plein d'endorphines, ce genre de bonnes nouvelles. Voilà, je vous crois sur parole, messieurs, vous l'avez connu, pas moi. Mais oui, voilà, tous les voyants sont au vert maintenant. Maintenant, on fera les comptes à la fin du bal, quoi.
Il y a aussi du Tiger dans le fait qu'il était favori comme Tiger, vous l'avez reprécisé dans vos papiers dans le journal du Golf, Benjamin. Il était favori comme le Tiger de la grande époque. Il s'est imposé comme le Tiger de la grande époque. Il y a quand même une marge. Il y a 4 points sur Haberg. Il y a 7 points sur les 3e. 9 points sur le 5e. Vous disiez 8 joueurs sous le par. Tout le monde a eu du mal sur ce parcours, à battre le parcours. Et lui, il fait moins 11. Et on a l'impression qu'il fait moins 11, comme on dit, avec les mains en haut du guidon. Vous l'avez dit, il drive bien. Il a probablement le meilleur jeu de fer du monde. Peut-être un des meilleurs de l'histoire. En tout cas, le meilleur avec Tiger depuis 25 ans. Il a un petit jeu redoutable. Il a enfin réappris à putter. On ne voit pas, en tout cas pour l'instant, pourquoi ça s'arrêterait, sa domination.
À ce jour, effectivement, il n'y a pas de raison. Mais je conclue là-dessus, c'est toujours pareil. Après une grosse période d'un joueur, on est dans cet état-là à se dire que le game est plié. Mais bon, comme tu l'as dit, Arnaud, c'est vrai que ça fait quand même depuis 2022 qu'il fait ça. 2023, c'est pas terrible. Cet hiver, c'était vraiment pas bon et il fait que des top 5. Donc, effectivement, il est inquiétant. Il est inquiétant dans le bon sens du terme, Scotty Scheffler.
Alors, Benjamin, pour terminer sur Scotty Scheffler et sur cette victoire, de tous les majeurs, de tous les Masters que tu as couvert en tant que journaliste, tu le classerais comment, ce Masters, quant aux conditions c'est un des plus beaux que tu aies vu ou pas forcément?
Non, le plus beau, non. Et puis, on est quand même loin du climax ou de l'atmosphère des grandes années Mickelson et Woods, où ça criait de tous les côtés, ça criait très, très fort. Scotty Scheffler, il vous épate, mais il va pas vous... Est-ce qu'il va faire lever, par exemple, le téléspectateur français la nuit? Je ne sais pas. Je pense que le replay le lendemain en 20 minutes suffirait très bien avec lui. Puis ça... Voilà. Il manque quand même à côté. C'est pas qu'il n'est pas attachant, Scotty Scheffler, c'est juste qu'il n'est pas spécialement attachant. On n'a pas envie forcément de se passionner à lui. Ces citations de la Bible, etc. Moi, je suis pas fan du tout de ce genre de choses. Évidemment, ça le regarde et ça marche pour lui. Tant mieux pour lui. Mais bon, il m'épate par son jeu, mais il me fait clairement pas rire. Ensuite, au niveau du scoring, ce Masters, il y a eu beaucoup de vent, donc les joueurs ont lutté. C'est sympa à voir à l'US Open une fois dans l'année. Au Masters, on aimerait bien voir un peu plus d'eagle. On aimerait bien voir un petit peu plus de cri du côté de la main corner, du côté de la foule. Et voilà, peut-être ça manquait aussi d'un Rory McIlroy en tête. On a eu Woods pendant deux jours, mais c'était du grind, c'était un peu raccro. Donc non, c'est clairement pas le plus beau Master de ces dernières années. Après, il a fait beau et on a un vainqueur incontestable. C'est déjà ça, effectivement.
Moi, Benjamin, je le disais hier, je sais pas si c'était avec toi, mais je trouve que les 9 derniers trous samedi étaient extraordinaires. Moi, c'est les 9 plus beaux trous que j'ai jamais vus à Augusta. Il y a quand même pas une dizaine de joueurs, mais une bonne demi-douzaine de joueurs qui ont été en tête à un moment ou qui sont passés en tête ou qui étaient à un coup de la tête avec des eagles, des bogeys, des doubles bogeys. Moi, j'ai trouvé ces 9 derniers trous du samedi fantastiques. J'ai envie de dire que c'est dommage qu'on n'ait pas eu...
Ça aurait été le dimanche.
Ça aurait été bien que ce soit le dimanche. Le dimanche n'a pas été à la hauteur, mais encore une fois, avec un joueur qui domine tellement, ils se sont tous un peu cramés samedi et on l'a vu hier, ils ont explosé. Enfin, ce Masters était trop dur pour tout le monde, sauf pour Scheffler et pour Haberg. Tous les autres ont explosé à coup de double bogey ou de bogey ou de coup raté ou de pote raté.
Alors Mathieu, Benjamin, en tout cas, un Français nous a fait lever cette nuit, ces nuits de Masters, évidemment, c'est Mathieu Pavon, qui boucle son Masters à la 12e position, meilleur Français de l'histoire. Voilà, une story sympa aussi, Mathieu Pavon, dans son premier Masters.
Ouais, à l'image d'Haber et qui l'a joué le samedi, c'était un débutant total et on a l'impression qu'il jouait, ça fait plusieurs fois qu'il jouait le parcours. Peut-être pas, il a peut-être un tout petit peu galéré, je commence par le négatif, sur le contrôle des vitesses de balle au putting. Je finis sur le négatif, peut-être qu'il ajoutait un grand coulombé dans son sac à la Phil Mickelson, peut-être que ça lui serait utile, il faudrait qu'on le débriefe à froid avec lui et évidemment, c'est pas toujours facile de tenter un grand coup lobé, notamment quand vous flyez quand vous dépassez le green du 15, comme on l'a vu hier. Son chipping grip inversé est peut-être pas propice à ce grand coup lobé.
Je pense pas du tout, même. On demandera à un pro, mais pas du tout. Je pense. On va demander à Guillaume Biojo tout à l'heure.
Non, c'est clairement pas propice. Peut-être qu'il y a forcément des axes de progression. Il va prendre expérience. Il est déjà qualifié pour le Masters de l'an prochain et c'est très. Et c'est déjà très très bien pour un joueur français, pour Mathieu Pavon qui était 200e mondial il y a un an. Donc vraiment pareil, quasiment il a coché énormément de cases cette semaine. Vous avez vu, pas un seul double bogey, il y avait vraiment que du bon. 12e place pour un rookie, on est largement au-dessus de la moyenne du rookie de base à Augusta. Ça augure vraiment de très bonnes choses pour la suite.
Vous avez un fan derrière vous, Benjamin.
En tout cas,
ça va être le moment de vous quitter.
Ouais, Romain Lefebvre.
Romain Lefebvre de l'équipe.
Oui, il m'attend,
en direct à la télévision.
Il m'attend. Voilà, il m'attend pour aller jouer au golf.
Allez, bon golf, messieurs.
Merci
beaucoup. Merci, Romain.
Merci beaucoup. Et
salut,
merci,
les gars.
Merci, à bientôt. Rentrez bien. Voilà, merci beaucoup à Benjamin Cadieux qui était à Augusta. Pour suivre ce 88e Masters, juste avant de continuer de parler de Mathieu Pavon, Scotty Scheffler, 3 victoires cette année, il gagne tout, il va commencer à vous énerver, Arnaud, vous allez commencer à le détester, Scotty Scheffler.
Bah ouais, il faut pas qu'il gagne trop. Après, on vient de l'évoquer avec Benjamin, là, hein, c'est quand même, on va encore plus attendre l'USPGA, parce que Jordan Spieth l'avait fait à l'époque, bon, c'était l'US
Open.
C'était
l'US Open en 2015,
qui suivait, mais voilà, enfin, on sait que c'est... En tennis, ça a été fait chez les filles. Chez les hommes, ça a été fait il y a très longtemps. En golf, ça paraît totalement impossible. Mais encore une fois, là, vu comment joue Scotty Scheffler, on se prend à rêver. Donc, vivement l'USPGA.
Et justement, on va reparler de Mathieu Pavon, qu'on retrouvera également à l'USPGA. Et cette semaine, pour le Masters, il a été suivi les quelques jours par Adrien Sadier. On a eu la chance de l'avoir dans nos émissions en direct live. Et on vous repropose cette interview d'Adrien Sadier qui nous fait rentrer un peu dans les coulisses d'Augusta. Salut Adrien, comment ça va ?
Bonsoir, ça va et vous ?
Alors Adrien, on le rappelle, hein,
on voit le logo, il l'a pas raté le logo.
T'as eu la chance d'être
j'ai pas raté le merchandising.
Ouais, on imagine.
Je pense qu'il n'y a pas que le polo.
Bonjour.
Coucou bonhomme.
Dis bonjour.
Bonjour.
Alors Adrien, raconte-nous un peu cette expérience au Masters, à Augusta. Tu as eu la chance de suivre Mathieu Pavon. Ça devait être incroyable d'aller à Augusta et puis de suivre Mathieu, un de tes potes, quoi.
Bah ouais, c'était top. J'ai eu la chance qu'il me garde un ticket pour moi. Donc j'ai fait juste les 3 jours d'entraînement et rien que d'être là-bas, de voir en vrai le parcours, les lieux, les traditions qui sont assez mythiques, c'était rien que ça, c'était assez exceptionnel de vivre ça, oui.
Tu t'attendais à Augusta, toutes ces traditions, ce côté immaculé, je suppose que tu avais vu plein d'éditions à la télé, mais tu t'attendais ça en vrai?
Oui, quand même, oui, c'est vrai que la tradition que j'ai préférée et qui est assez dingue de voir en vrai, c'est l'histoire des chaises vertes que tous les spectateurs mettent le matin et de les voir vides ou remplis au bord des fairways, des greens, c'était assez sympa de voir ça, de vivre en vrai. Après, les autres traditions, on va dire que celle du téléphone interdit, c'était pas mal aussi parce que ça nous permet de vivre vraiment l'expérience en vrai. Donc c'était assez stylé. Et après, le parcours en lui-même, c'est une dinguerie, quoi. Il y a énorme de dénivelé, on s'en rend pas compte à la télé. Et c'est de voir les pentes des greens, des fairways en vrai, c'est assez incroyable.
Est-ce que ça te démangeait d'avoir les clubs en main, on suppose, hein, pour toi aussi être au départ de ces trous, de ce parcours, forcément?
C'est vrai que ça donne grave envie. Après, on a beaucoup parlé toute la semaine avec Mathieu, on a discuté un peu de ces derniers mois et c'est vrai que ça donne grave envie, ça démange et ça donne envie de donner le meilleur à l'entraînement pour y être un jour.
Justement, Mathieu Pavon, tu le dis, hein, tu as discuté pas mal avec lui, tu as senti vraiment une évolution, un changement de stature depuis ce putt rentré à Dubaï et puis sa victoire à Torrey Pines, c'est là le Masters. On a vraiment une évolution de Mathieu
De lui-même, non, c'est toujours le même gars. Après, ce qui est marrant, c'est les spectateurs. Voilà, vu que j'ai suivi 3 recos, tous les spectateurs le reconnaissent maintenant. Donc, je pense qu'aux États-Unis, il commence à se faire un nom. Après 2 tours, il était quand même dans le top 10. Donc, je pense qu'il est en train de se créer un nom là-bas. Je pense qu'on le regarde un peu différemment. C'est vrai que c'est assez drôle. Maintenant, une fois, il allait au vestiaire, il a discuté 2-3 minutes avec Rory McIlroy. Donc, on sent que c'est en train de devenir quelqu'un là-bas. Et c'est assez chouette de voir ça pour lui.
Mathieu Pavon qui s'est lancé, hein, qui a réussi son drive au 1, il aura 135 mètres pour le drapeau.
Est-ce que Adrien il te bluffe, Mathieu? Est-ce qu'il t'impressionne tout ce qu'il fait ou finalement non, c'est juste pour vous qu'il côtoyait souvent la logique?
Il bluffe par ses résultats carrément, hein, puisque quand même 2 victoires, dont une sur le PGA Tour. C'est un enchaînement assez incroyable de se retrouver là, on va dire en 6 mois, joueur du Tour européen à joueur du Master, c'est quand même assez incroyable. Mais après, sur le jeu en lui-même, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose de très différent, sauf que on va dire que le putting est bien meilleur qu'avant. Il me parlait souvent de son putting qui était souvent un peu dans le rouge sur les stats de stroke game. Et là, depuis un moment, il est beaucoup dans le vert. Donc, je pense que c'est ce qui lui a aidé de passer ces caps-là.
Louis, tu as une question pour Adrien?
Ouais, Adrien, toi qui es joueur du Tour européen, donc qui a accompli, qui a une très belle carrière, qui a marché le parcours là pendant 2-3 jours. À ton avis, combien de temps ça te prendrait pour avoir des bonnes marques sur ce parcours? Combien de temps il faudrait pour te sentir à l'aise, par exemple, sur un premier master?
Je pense que ce qui aide Mathieu, c'est qu'il a un cadet qui a joué déjà 10 fois le master, qui sa meilleure perf au master était 3e. Donc, je pense que le cadet peut faire la différence à ce niveau-là. Je pense que Marc, il a toutes ses marques sur le golf. Il a l'expérience du dimanche. Donc, je pense que ça aide vraiment. Et puis, quand je les voyais beaucoup parler sur le parcours, j'étais assez derrière eux au départ. C'est comme au 12, quand ils sont arrivés au 12, Marc lui a dit direct, il faut que tu me fasses sur ce trou une balle plus basse que d'habitude. Il faut en aucun cas que la balle passe au-dessus des arbres pour qu'elle se fasse piéger par le vent. Et c'est ces petits conseils qui font que je pense qu'il s'est vite imprégné du parcours. Parce que voilà, il connaît les zones, il connaît les drapeaux. C'est ce qui aide Mathieu, je pense, cette semaine. Après, combien de temps il faut pour le jouer, pour être en forme là-dessus, je sais pas. Il s'en sort déjà assez bien en une semaine. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'il le jouera, il se sentira de mieux en mieux.
Il est au bord du green, Mathieu Pavon, en deux, sur le green, au bord du green. À l'entrée du green, le drapeau est tout au fond à droite. Il a tout le green pour travailler sa balle, mais il est à 25 mètres du drapeau environ.
Alors Adrien, sur Augusta National, il y a un endroit qui t'a le plus impressionné en vrai, voilà. Est-ce qu'il y a un trou qui t'a particulièrement impressionné quand t'es allé au Masters?
Alors j'ai trouvé visuellement le 16 plus dur que le 12, c'est assez marrant. 16, tout le green penché vers le lac, chose qu'on voit pas vraiment à la télé. Et après, tout est impressionnant là-bas. C'est quand on est un peu golfeur, qu'on connaît l'histoire, tout est mythique. Donc tous les trous, je pense, sont un plaisir à jouer. Et après, c'est ce que j'ai dit au début, c'est juste le dénivelé qui est juste hallucinant et qu'on se rend pas compte à la télé en fait.
Est-ce que tu as eu la chance de pouvoir approcher ou voir Tiger Woods évoluer un peu sur le parcours ou au practice? Est-ce que ça, c'est aussi un des passages obligés quand on va au Masters?
Alors, lundi matin, je suis allé direct. Je suis allé plus tôt que Mathieu au golf. Et la première chose que je suis allé, parce que je sais qu'il fait les recos le lundi matin tôt sur le retour, donc je suis allé le suivre 3-4 trous. Et il est arrivé le mercredi au même moment que Mathieu sur le putting green. Et ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est que le putting green en soi n'est pas très grand. Mais voilà, il y avait une dizaine de joueurs qui se marchaient un peu dessus, qui se partageaient les trous. Et Tiger est arrivé et ils se sont tous poussés. C'était assez hallucinant. Ils lui ont laissé un tiers du putting green rien que pour lui. Et c'était assez hallucinant de voir ça en fait.
Adrien, t'as Mathieu régulièrement tous les soirs depuis que t'es revenu ou tu le laisses tranquille?
Alors je lui envoie juste les photos que j'ai prises, mais sinon je le laisse quand même assez tranquille. Je veux pas non plus abuser de son temps. Je sais que c'est un peu compliqué. J'ai vu qu'il avait quand même beaucoup de sollicitations et que voilà, je sais qu'il a son physio aussi, donc il a beaucoup de soins le soir. Donc à part les photos que j'ai faites, je lui envoie, je le laisse plutôt tranquille.
Comment ça, tu fais pas comme tous les golfeurs qui se donnent des conseils entre eux, tu lui dis pas monte un petit peu plus intérieur, extérieur, non? Même pas à distance.
non, il est quand même 25e mondial, et mon 5e, c'est pas à moi de lui donner des conseils.
Eh bien, merci beaucoup Adrien, tiens juste pour la blague, c'est quoi, t'as ramené beaucoup de goodies, de souvenirs, c'est quoi le truc le plus fou que t'as ramené? Est-ce que t'as réussi à avoir un nain, un gnome?
Alors, j'aurais pu, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel à ramener quand même. Je sais pas. C'est peut-être une des traditions que j'ai ratées, mais non. J'ai quand même mis pour 2000$ en merchandising, parce que j'ai eu des amis qui m'ont demandé, donc j'ai ramené des trucs, mais des trucs très fous, non. J'ai ramené beaucoup de polos, de pulls, de casquettes, mais rien de très fou.
Adrien, t'es loin du record. Hein. Il y a une caissière, enfin quelqu'un là, qui travaille là-bas, qui disait que le record. C'est 30 000$ qu'il avait vu.
En une fois.
En une
30 000
fois.
En une journée.
Ouais, en un passage en caisse. 30 000 en un passage en caisse.
Moi, c'est en trois fois. En trois fois. J'ai fait une reco, une première action et j'ai terminé.
Bon, en tout cas, on le voit, tu l'affiches fièrement. Bravo.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Adrien, d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Très sympa. Et puis, à bientôt sur les antennes de Journal du Golf TV. Merci beaucoup, Adrien. Bonne soirée. Voilà, merci beaucoup à Adrien Sadier pour nous avoir fait vivre.
Et à son fils.
Et à son fils, exactement, pour nous avoir fait vivre, je vais y arriver, son Masters un peu de l'intérieur. On sent qu'il a envie de le jouer, évidemment. Bah, on l'a vu Romain Langasque aussi.
Et Julien Guerrier, ils ont tous envie de le jouer.
Et on espère d'ailleurs qu'ils le disent, que Mathieu Pavon, ce côté, voilà, il a réussi à le faire. Pourquoi pas moi, va...
Non, mais c'est sûr.
Encore une nouvelle dynamique.
On le disait, Jean Van de Velde, première victoire sur le Tour européen en 93. C'est quand même... c'est il y a longtemps, mais à l'échelle du golf, c'était aussi très tard après la création du Tour européen, même si Jean Garayal avait gagné avant, mais il n'y avait pas de Tour européen. Et depuis, il y a plus d'une trentaine de victoires. Donc Mathieu Pavon, c'est le premier à gagner sur le PGA Tour depuis Arnaud Massy en 1907. Donc, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Dans 30 ans, on en aura 30 des victoires sur le PGA Tour. On en est à peu près...
Espérons.
Persuadé. Donc oui, il y en aura d'autres des Français au Masters. Il y en aura d'autres qui gagneront sur le PGA Tour, c'est sûr.
Allez, on continue de débriefer ce 88e Masters Augusta et on reçoit tout de suite Guillaume Biojo.
Calmez votre ardeur,
Jean-Philippe. Salut Guillaume. Ça va, coach ?
Salut Jean-Philippe. Ça va, Guillaume. Arnaud ? Ça va ?
Un beau polo de...
Et vous, tout va bien ?
Ah ouais, joli, joli polo. Hein. Et le vert pomme, je ne sais pas si j'aurais pris vert pomme, moi, mais bon.
Parce que vous êtes trop traditionnel, Arnaud.
Ça va pas à tout le monde.
On ressent ce côté Fontainebleau très traditionnel.
c'est ni le vert Augusta, ni le vert Masters. C'est le vert pomme.
Et ça y est, Jean-Philippe a fait d'énormes progrès grâce à Seb Audoux. Et donc maintenant, il le place à toutes les sauces.
Bon alors, Guillaume, ce Masters d'Augusta, cette victoire de Scottie Scheffler, comment toi tu l'as vécu ? Impressionnant, forcément. Impressionné par le niveau de ce joueur ?
Incroyable. Ouais, très, très, très impressionné. Scottie Scheffler, il est quand même sur le PGA Tour depuis pas si longtemps. Et comme le disait Arnaud, on parle de 30 ans et que c'est court. Là, on parle de quelque chose d'extrêmement court.
C'était son quatrième, cinquième Masters. Quatrième Masters.
Il est complètement en train de mettre la main sur le PGA Tour. Et c'est extrêmement impressionnant. Et je l'ai trouvé hier, lui qui a toujours l'habitude, même étant concentré, d'avoir la banane, d'avoir le sourire. On le sentait hier quand même extrêmement concentré, ce qui est normal. Hein. Il était en tête du Masters, mais quand même, on sentait que ça lui tenait à cœur. Ouais, malgré tout ce qu'il dit en conférence de presse, comme quoi le golf, il y a autre chose, il n'y a pas que le golf, il n'y a pas qu'il est vraiment, il a envie de retrouver sa femme, ils vont avoir un enfant. Ok, mais on sentait quand même qu'il avait envie de le gagner hier, le Masters. Qu'il n'y avait pas que ça, mais que quand il était au 18, il y avait quand même que ça à un moment.
Oui, il disait qu'il adorait la victoire, qu'il haïssait la défaite. De toute façon, on ne devient pas numéro un mondial avec de tels résultats sans être un vainqueur acharné, un travailleur acharné. Oui, forcément, c'est un immense champion. Donc.
Alors Guillaume, on posait la question à Benjamin tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du Tiger Woods de la grande époque dans Scottie Scheffler, selon vous ?
Au niveau des résultats, complètement. Complètement. Il a gagné déjà 9 fois. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a gagné 9 fois, et ça, vous savez ça mieux que moi en tant que journaliste, mais il a gagné 4 fois au même endroit. Et sur les 9 victoires, il y a quand même des victoires très solides. Il a gagné 2 fois Augusta, il a gagné 2 fois à Sawgrass. Oui, clairement, dans les résultats, il y a clairement du Tiger Woods. Et du Tiger Woods aussi, dans le fait qu'il gagne souvent avec beaucoup de points d'avance. C'est-à-dire là, il avait quand même 4 points d'avance sur Hadberg et 7 points d'avance sur le troisième. Donc on sent que c'était vraiment une victoire.
Oui, il joue pas au même jeu que les autres.
Non, clairement. Et puis ce qui est très impressionnant, en fait, sur Scheffler, c'est que si demain, on demande, ok, Rory McIlroy, quelle est sa grande force ? Sa grande force, on le sait, c'est peut-être un des meilleurs drivers de l'histoire du jeu. Si on parle, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont, je dirais, vraiment un point très fort. Si demain on se dit, bon, Scottie Scheffler, c'est quoi son point très fort ? Ben, il est très fort partout. On sait qu'il est très très fort du tee au green, ça c'est une certitude. Mais au-delà de là, il est très fort partout. Le chip qu'il fait au 18 hier est magnifique. Enfin, il n'a pas de point faible. On a la sensation qu'il n'a pas de point très fort parce que tout est tellement facile. On se dit, ouais, bah, il n'y a rien d'impressionnant, mais c'est très, très impressionnant.
Si, il a un point faible quand même, le putting, Guillaume, qu'il a en partie réglé, mais il a quand même un petit point.
Voilà,
et heureusement, parce que sinon, ce serait Tiger pour le coup, complètement. Quoi.
Ouais.
Alors, est-ce que justement, on se posait la question, en route vers un grand chelem pour Scheffler, on voit mal pour l'instant qui peut l'arrêter tellement il a été impressionnant.
On se pose la question, on ne peut pas dire en route vers un grand chelem quand même. On se pose la question, on est là
pour lancer des débats et enfoncer des portes ouvertes surtout.
Mais le lundi après le Masters, c'est toujours la question, c'est le premier tournoi de l'année. Il a gagné avec 4 points d'avance sur Hadberg.
Et d'ailleurs, Guillaume, je crois qu'on se posait la même question il y a 2 ans quand il avait gagné le Augusta. On se demandait même si c'était le nouveau Tiger.
Oui, peut-être, mais de là à penser au Grand Chelem il y a deux ans.
Ouais, ouais. Il a gagné à Saugras il y a quelques semaines, à Bail juste avant. Donc là, effectivement, il est extrêmement chaud et on peut se poser la question. Maintenant, pour le Grand Chelem, il a encore un peu de boulot quand même, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est sûr qu'une fois de plus, je me répète, avec ce qu'il est en train de montrer en ce début de saison, on peut se poser la question, mais je suis comme Arnaud, je suis quand même modéré sur ses propos. Ouais, un Grand Chelem, c'est quand même quelque chose de absolument énorme et extraordinaire. Et derrière lui, il n'a pas que des manchots.
Et surtout que Mathieu Pavon va en gagner un. Donc
Justement, Guillaume, tiens, je saute sur l'occasion. 2015, Jordan Spieth, il gagne le Masters, il gagne l'US Open derrière. Oui. Il fait quatrième du British, je crois, mais il est à un coup du play-off. Et... Est-ce que vous l'avez déjà évoqué, ça, avec Cameron ou avec Jordan, la pression qu'il a eue au British, qu'il a ressenti cette année-là, qu'est-ce qu'ils avaient dit à ce niveau-là ? Cameron McCormick est son coach, hein, qui est votre associé.
Oui, ouais, bien sûr. Mais mon employeur, mon partenaire, ce que vous voulez. Mais,
votre ami.
Bien évidemment, qu'ils ont, sans en parler, bah, c'est dans toutes les têtes. On n'a pas besoin d'en parler de quelque chose comme ça. On n'a pas besoin d'évoquer, oh là là, tu vas pouvoir peut-être faire le Grand Chelem. En tout cas, tu vas pouvoir avoir un tournoi en plus. C'est tellement présent et les médias sont tellement présents et tout le monde est là pour leur rappeler. Donc, ils n'ont pas besoin d'en parler. Et ce qui est sûr, par contre, c'est qu'ils ne vont pas traiter le tournoi de manière différente parce qu'il y a cette opportunité. Quel que soit le tournoi, l'objectif, c'est de faire le mieux possible sur chaque coup, le mieux possible sur chaque tour et de se préparer de la même manière. Donc, même si effectivement, ça rajoute une pression supplémentaire, il n'y a pas de propos qui tournent autour de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Arnaud.
Non, je voulais savoir, est-ce que vous avez évoqué ce que Jordan avait ressenti au British Open notamment ou Cameron ?
Non, on n'a pas évoqué principalement ce point-là. On a évoqué le point en tant que coach du fait que même si l'enjeu est beaucoup plus important parce qu'on sait que c'est un majeur supplémentaire et que c'est un majeur de suite, qu'il y a plus de tension, qu'il y a plus d'attente, qu'il y a bien évidemment un niveau d'excitation pour le joueur, mais bien évidemment pour toute l'équipe autour. Et voilà, en tant que coach, l'objectif, c'était de se dire comment on fait pour faire en sorte que le joueur continue à faire son boulot et n'ait pas toute cette pression qui lui tombe sur les épaules et qui l'empêche de jouer. Donc, de parler uniquement de Spieth, non. De parler de ce qu'il faut faire, oui, on l'a évoqué.
C'est limite de la prépa mentale à ce niveau-là, de ne plus avoir cette pression de penser au Grand Chelem et de penser qu'à son jeu.
Bien sûr, c'est à la fois de la préparation mentale, c'est à la fois de la préparation physique qui est hyper importante parce que le joueur a tellement d'influx, a tellement d'envie, a tellement d'excitation qu'il faut trouver aussi une manière d'évacuer tout ça. Donc, il y a énormément ce qui se passe entre les tours parce que ce qui est très très important, c'est de ne pas cogiter, c'est-à-dire on rentre son putt au 18, on est le mardi ou le mercredi avant le tournoi, le soir est hyper hyper important parce que si le soir il sort pas de cette énergie, il sort pas de cette bulle, il est encore dedans à penser à ce qu'il doit faire le lendemain, ça va lui bouffer tellement d'énergie que le dimanche il en aura plus. Donc c'est toute cette gestion qui est hyper importante sur le parcours, de faire son job sans penser à l'immensité de l'événement et en dehors du parcours, de faire des choses qui vont lui permettre de garder de l'énergie, d'emmagasiner de l'énergie sans surréfléchir à tout ce que ça peut engendrer.
Bon, Guillaume, on vous en a déjà parlé un petit peu pendant ces différents lives qu'on a eu, nos différentes soirées. Évidemment, Masters compliqué pour Jordan Spieth. Qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains jours ? Est-ce que vous pensez quel axe de travail va être entre Jordan et Cameron ou vous en savez pas, vous savez rien ?
Si, ça va être pas mal de chipping, mais ce qui est assez difficile, c'est que il joue plutôt pas si mal, même plutôt bien. Il a fini 10e à Houston il y a quelques semaines, mais le problème de Jordan Spieth, c'est quand il joue mal, il fait des très mauvais scores, des très gros scores sur certains trous. Il a commencé par double, on le sait, au 1, il a fait 9 au 15. Donc, quand il loupe, il ne fait pas semblant, il loupe vraiment. Donc, l'axe de travail, il ne va pas être le même. Ce qui va être difficile pour Cameron, c'est surtout de gérer la frustration de l'événement le plus important de l'année pour Jordan Spieth, qui est le Masters, on le sait. Donc, ça va être de trouver les mots pour faire en sorte qu'il soit... j'ai envie de dire la tête dans le guidon pour Arbor Town cette semaine, qui lui tient à cœur aussi, mais c'est surtout de gérer le côté frustration et le côté je suis passé à côté de l'événement qui me tient le plus à cœur de l'année. C'est beaucoup plus l'axe de travail. Pour que le travail soit bien, il va falloir qu'il réussisse à mettre Jordan dans le bon état d'esprit. Parce que c'est un joueur qui déteste lui aussi, bien évidemment, comme tous les très grands joueurs, perdre, avoir un échec, et principalement Augusta. Donc ça va être de
digérer. Voilà,
faire en sorte que... Exactement. C'est le bon mot, Jean-Philippe.
Guillaume, justement, le deuxième de ce master, c'est un certain Ludwig Haberg. Est-ce que je vais demander l'avis du coach technique. Est-ce qu'on peut décrire son swing en quelques mots de Ludwig Haberg?
Parfait.
Ouais, extrêmement simple. Avec plutôt très droit devant la balle, très simple. Peu d'action de main, beaucoup d'action de corps. Meilleur driver, un des meilleurs drivers aujourd'hui sur le PGA Tour, même s'il a un peu moins bien drivé hier. J'ai envie de dire des bases très solide, un swing simple avec beaucoup d'énergie, parce qu'on voit que c'est un swing qui est très tonique, avec une vitesse très importante dans le backswing et dans le retour, beaucoup d'action de corps et peu d'action de main. Donc un swing très répétitif, tourné autour de son physique grand et déjà assez costaud. Et voilà, ça en tant que coach et en tant que spectateur, complètement hallucinant que ce joueur, pour qui c'est le premier Masters, finisse deuxième. C'est vraiment un météorite, ce joueur, et c'est génial pour l'Europe et pour la Ryder Cup d'avoir un joueur comme ça qui est en train d'exploser.
Je ne sais pas si on peut le dire, mais sans Scotty Scheffler, il aurait gagné le Masters. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Moi, je disais, Guillaume...
Un paquet de joueurs aurait gagné des tournois sans Tiger Woods.
Oui, bah, voilà,
ouais.
Exactement. Je disais que je voyais que Ludwig Haberg pour aller titiller Scotty Scheffler, que ça allait être la rivalité des prochaines années... Guillaume,
Non, je dirais pas ça, Arnaud, parce qu'il y a quand même beaucoup.
Sauf
beaucoup,
si le livre revient, bien sûr.
Il y a quand même beaucoup, beaucoup de très bons joueurs, et on l'a vu, hein, Max Homa est quand même très impressionnant. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très impressionnants.
Et Max Homa, il va pas être numéro un mondial, Guillaume.
On ne sait pas. La seule chose, c'est
avancé,
que.
Arnaud, quand même.
Oui, bah, j'aime bien vite m'avancer, moi.
Là où il faut être vigilant, c'est quand un joueur est chaud, on a l'impression qu'il va être là pour toujours. Alors certes, il est bien présent, hein, Scotty Scheffler,
mais il est chaud depuis
il a la même chose avec.
Fois,
hein. Ouais, non, mais je suis d'accord, Arnaud, mais il y a un moment où c'était Brooks Koepka, je sais bien de quoi je parle. Il y a eu un moment où.
Non, mais ils n'étaient pas chauds. Non, mais enfin, personne n'a dominé comme Scotty. Là, il est numéro un mondial pour
longtemps. Oui, mais en 2023, il a eu quand même on disait peut-être
oui,
ça aussi
mal,
en 2022, quand il a gagné le Masters. Puis il était dans le creux de la vague en 2023.
Là, honnêtement, Scotty Scheffler, enfin, ce que je disais tout à l'heure, Rory McIlroy, il doit gagner trois majeurs pour aller chercher Scotty Scheffler, et ça ne suffira peut-être pas. Je parle de la place de numéro un mondial. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'il va tout gagner, Scotty Scheffler. Je dis juste la place de numéro un mondial est sur ses épaules. Et à part Ludwig Haberg, moi, là, pour l'instant, je ne vois pas qui peut rivaliser. Encore une fois, sauf si Jon Rahm revient, mais pour l'instant, il n'est pas là.
Je suis d'accord sur le fait qu'il est impressionnant et qu'il, je le disais au début, qu'il marche sur le PGA Tour. Maintenant, est-ce que ça va durer très longtemps? On lui souhaite que du bien, Scotty Scheffler. Pour moi, la grande force de Scotty Scheffler, alors je ne réponds pas à votre question, Arnaud, je dérive, mais c'est cette... je ne sais pas s'il en joue ou pas, parce que je ne le connais pas assez du tout pour pouvoir juger, mais ce détachement qu'il a par rapport au golf. Parce que ce détachement est complètement... hallucinant. Il en parle tellement que par moments, je me dis, est-ce que c'est pas de l'auto-persuasion? Est-ce que c'est... Mais bon, et toute la journée, il dit, ouais, c'est bien beau le golf, mais bon, pas grave, quoi. Alors, c'est toujours plus facile de dire ça quand on est joueur professionnel et qu'on a déjà engrangé 55 ou 56 millions de dollars sur son compte en banque en gain de tournoi. C'est sûr que le golf, bah, c'est moins stressant que pour d'autres qui ont besoin de gagner leur vie, c'est sûr. Mais s'il est réellement comme ça dans sa tête et s'il réussit à se détacher du résultat et du golf et à jouer en se disant « Ok, joue bien, c'est bien, joue mal, c'est bien », il va être dur à prendre, surtout à cause de ça, parce que qu'est-ce qui est très dur pour les golfeurs, et vous le savez, car vous êtes tous les deux d'excellents joueurs, c'est quand on fait un mauvais coup, surtout Jean-Philippe, quand on fait un mauvais coup, on est hyper frustré, cette frustration, elle est très souvent néfaste. Lui, on sent que ça l'atteint absolument pas, mais à genre rien du tout, parce qu'il est détaché un peu de tout ça. Et si c'est
comme
effectivement
Haberg,
le cas,
un petit peu
et
aussi,
si
hein,
il arrive
à... Comme Haberg. Hein.
Oui, mais de manière différente. Haberg, il a moins d'attente, il arrive, il découvre, il joue. Voilà, Haber, c'est exactement, et je ne veux pas faire de comparaison, c'est exactement comme Jordan Spieth il y a quelques années. En 2015, ok, il jouait bien, c'était bien, il ne jouait pas bien, c'était bien aussi, parce que il venait d'arriver et qu'il n'y a pas d'attente. 10 ans après, quand on a des attentes qui sont différentes, c'est vraiment différent. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça, c'est quelque chose qui n'atteint absolument pas Scottie Scheffler. Il leur dit à chaque conférence de presse, il n'y a pas que le golf dans la vie, joue bien, c'est bien, joue pas bien, c'est pas grave. Mais je me répète, c'est impressionnant, c'est plus facile quand on n'a pas de problème d'argent parce que pour beaucoup de joueurs, et je pense aux jeunes joueurs français, c'est pas pareil parce que quand il faut bien jouer pour payer son loyer, c'est très différent. Là, quand on a déjà, ouais, je me répète, des centaines de millions de dollars sur le compte en banque, effectivement, on peut être un peu plus détaché. Mais c'est pas si facile à faire.
Guillaume, on a eu aussi la chance d'avoir un Français hein, qui bat le record d'ailleurs de la meilleure place d'un Français en Masters, Mathieu Pavon qui termine 12e. Un Masters, déjà en règle générale, c'est bien, mais quand il y a un Français qui performe, c'est encore mieux.
Quand est-ce qu'on s'est eu vendredi, je crois, en ligne ensemble moi, je suis halluciné de Mathieu Pavon, c'est-à-dire il faut quand même. Il était sur European Tour encore l'année dernière. Il jouait, ça fait des années qu'il joue extrêmement bien. Mais là, il a fini 12e, il est 6e à
Guillaume, c'est sûr que l'année dernière, à cette même époque, on n'imaginait pas que Mathieu Pavon serait 12e du Master cette année.
On n'imaginait même pas qu'il le jouerait.
Donc. Exactement. Mais même au mois de septembre. C'est qu'il le joue bien et qu'il est complètement dans son élément. C'est-à-dire qu'on ne le sent absolument pas. En transpiration, quoi. Il joue très très bien toutes les semaines, il est super régulier. Je me répète, est-ce qu'on a bien conscience de ce qu'est en train de faire Mathieu Pavon? Parce que c'est hallucinant. Il va être, je ne sais pas si le classement mondial est sorti.
22e. Il est passé 22e.
Ouais. Vous voyez, c'est hallucinant. Il va être dans le top 20 forcément très rapidement. Et moi, je ne vois pas comment il ne va pas être une des figures très importantes du PGA Tour dans les prochaines années, parce qu'il a le jeu pour, il maîtrise, il n'a pas de points faibles, il est hyper content d'être aux États-Unis, on le sent hyper équilibré, et moi je pense que ce n'est que le début.
Alors c'est peut-être c'est peut-être un peu trop tôt, mais futur joueur de Ryder Cup, Mathieu Pavon, c'est de moins en moins surréaliste.
Ah non, mais ce n'est pas du tout surréaliste. Une fois de plus, il est 6e, de la FedEx Cup, et avec ce qui est très impressionnant, c'est que c'est avec beaucoup de régularité. Parce qu'on peut être 6e, on gagne un tournoi, on fait 3e à un autre, et après il n'existe plus rien. Il est super régulier, et c'est pas qu'il a eu deux ou trois grosses perfs, il en a eu, mais en plus de ça, les autres semaines, il est très régulier. Donc on voit qu'il est complètement à sa place, que je dirais le PGA Tour et les parcours que propose le PGA Tour correspondent complètement à son jeu, qu'il a une super équipe autour de lui, qu'il est hyper équilibré d'un point de vue familial. Il est là pour très longtemps et c'est génial pour le golf français.
Alors on en reparlera vraiment plus tard dans ces podcasts, mais futur majeur, prochain majeur, l'USPGA à Valhalla, c'est un parcours qui peut lui correspondre à Mathieu Pavon.
Ah, vous souriez Guillaume, comme si vous étiez déjà projeté là-bas avec un certain Jean-Philippe Rodenburger.
Peut-être.
Bah, peut-être notre voyage annuel avec Jean-Philippe.
Voilà. Ouais. Et je voulais juste, le temps que Guillaume boive, il n'avait jamais fait mieux que 40e sur le Tour européen, Mathieu Pavon, hein, avant l'année dernière. Donc forcément, on ne pouvait pas l'espérer à un tel niveau. Il avait quand même passé plein d'années sur le Tour européen, il n'avait jamais fait mieux que 40e à la finale, à la Race to Dubaï. Donc il sort pas de nulle part, il avait fait des résultats, il gardait sa carte.
Il a explosé. Il
a explosé quand même en 2023, ce n'était pas facile de le prévoir. Allez-y Guillaume sur Valhalla.
Oui, bien sûr. Je pense que tous les parcours de majeurs, qui sont des parcours extrêmement difficiles et sélectifs, sont parfaitement taillés pour Mathieu Pavon, qui performera, c'est sûr. Plus le parcours sera dur, pour moi, plus il performera. Il a toujours cette trajectoire de gauche à droite en fade qu'il maîtrise parfaitement bien. Du tee au green, il est très fort et on sait qu'il peut être beaucoup mieux. Je dirais que le seul point qui peut être un peu délicat, c'est tout ce qu'il y a autour du green. Et s'il y a des greens qui sont vraiment surélevés, très très ferme, on sait que Mathieu chip en grip inversé, chip en grip inversé, c'est un peu plus difficile, je dis bien un peu plus difficile, car bien évidemment il le maîtrise, mais de faire des coups qui sont très hauts et qui décollent très vite, ce qu'on appelle un lunch angle, qui est un angle de décollage très rapide pour que la balle s'arrête rapidement, en gros un coup lobé,
très
simple, et qu'en grippon inversé, le coulot B est un peu plus difficile à faire, mais il trouvera des parades et je ne suis pas inquiet pour lui.
Mais parce que c'est les lob shots, on ne peut pas les faire avec un grip inversé, Guillaume.
Il arrive à en faire certains en grip inversé. J'avais vu aux players qu'il arrivait en tout cas. En tout cas, il maîtrise le fait d'avoir un point de chute plus court. Il s'en sort, mais c'est sûr que c'est très, très difficile, quasiment impossible de faire en grip inversé.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. C'est toujours un plaisir de vous avoir à ce micro, à ce podcast. Et on vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, messieurs. À très vite.
Voilà, Arnaud, c'est vrai qu'on a hâte de voir Mathieu Pavon à l'œuvre.
En vrai
En vrai, oui, déjà. En vrai,
en personne.
Et à l'œuvre sur, déjà dès cette semaine sur le PGA Tour au RCB.
Ouais, c'est là qu'on voit quand même que ce calendrier, c'est n'importe quoi quand même. Un tournoi dans la foulée, enfin, ils font vraiment n'importe quoi. On a l'impression que le PGA Tour se demande si Keith Pellet n'a pas été embauché par le PGA Tour, tellement ils font n'importe quoi. Enfin, c'est la plus belle semaine de golf de l'année. Derrière, on n'a qu'une envie, c'est aller, mettez-nous un petit
décompresser.
Tournoi, décompresser, les joueurs aussi, j'imagine. Et là, ils nous remettent un tournoi, un gros tournoi, n'importe quoi. Le PGA Tour, c'est vraiment... je pense qu'ils ont eu des bonnes audiences cette semaine au Masters, apparemment. C'est Sabaudou qui nous disait ça, je crois, tout à l'heure, la dernière fois, ou Benjamin. Peut-être Benjamin qui nous disait ça, que ça marchait bien. Je ne sais plus qui nous le disait, mais...
Oui, je crois que c'était
cette semaine, voilà. Enfin, tous ceux qui sont restés scotchés devant leur télévision, ils vont peut-être aller... à la pêche ou je sais pas quoi, ou faire autre chose, parce que bon, bref. Mais en tout cas, nous, on est ravis de voir Mathieu Pavon, mais c'est pareil, on aurait aimé avoir une semaine pour s'en remettre, pour suivre le Chevron sur Journal du Golf TV, suivre le circuit féminin, et puis la semaine d'après, voilà, à nouveau un gros événement, mais là, encore une fois, il marche sur la tête.
Allez, juste avant de se quitter, vous l'avez rappelé, Arnaud, évidemment, la semaine de majeur continue, parce que cette semaine, c'est le Chevron Championship, premier tournoi majeur de l'année sur le LPGA, chez les filles, avec notamment Céline Boutier et Perrine Delacour qui seront dans le champ, donc à suivre sur nos antennes à partir de jeudi, 15h, de 15h à 19h, puis de 23h à 1h du matin, vendredi également, et samedi, dimanche, uniquement en soirée. Voilà, on va vous montrer en exclusivité la couve du prochain Journal du Golf, forcément.
Qu'est-ce qu'elle est belle, hein, Jean-Philippe ? Hein, qu'elle est belle, Jean-Philippe ?
Chef, oui, chef. Voilà. C'est tout frais, hein, ça vient de sortir.
Ah, c'est même pas encore à l'imprimeur.
Voilà.
Si, remarque, si la couve, elle est
partie.
Chez l'imprimeur. Ouais,
voilà,
avec
dedans, évidemment,
l'intérieur.
Retour sur le Masters avec des papiers de Benjamin Cadieux sur Mathieu Pavon, mais évidemment aussi du Victor Dubuisson dedans, et un portrait de Pierre Bachmann aussi par l'excellent Thibaut Rez.
Très très bon numéro, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un aussi bon numéro.
Et d'ailleurs, on partira page tourisme à Mazagan pour découvrir le Mazagan Beach Resort.
Ah, Mazagan, là où vous avez fait ce drive en plein milieu du fairway.
Exactement, trou numéro 13, on ne dira pas lequel. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Arnaud. Merci à tous de l'avoir suivi. Et merci à l'excellent Hugo Ponce à la réalisation.
L'immense.
Salut.